Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors que nous entrons, Brice, dans une nouvelle décennie, que peuvent prédire les économistes de ce qui nous attend dans les 20 prochaines années?
La manière la plus courante de tenter d'annoncer l'avenir est de prendre en considération les dernières tendances constatées et puis d'extrapoler. C'est ce que fait Jim O'Neill. On appelle de plus en plus les années 10 une décennie perdue, constate ce professeur à l'université de Sheffield en Grande-Bretagne. Un grand nombre de pays ne sont pas parvenus à réaliser leur croissance potentielle. La croissance mondiale au cours de cette décennie écoulée aura été d'environ 2,5% l'an. Si une amélioration de la productivité n'intervient pas dans les années prochaines, il devrait en être de même durant ces années 20. La croissance restera relativement faible compte tenu de la démographie de la population mondiale puisqu'elle croît, celle-ci, à 1,2% l'an et cette langueur de la croissance interroge. Alors Jim O'Neill, dans le papier que je cite, détaille région par région. L'Europe et le Japon ont des populations vieillissantes, le nombre de personnes au travail va y diminuer, tandis que le poids des pensions de retraite et des dépenses de santé pèsera sur les budgets nationaux. Les performances économiques européennes ont été décevantes durant les années 10 du 21e siècle. Eh bien, elles devraient l'être au moins autant dans la décennie qui s'ouvre. Ce n'est donc pas de ce côté que peut venir la croissance mondiale. La Chine, vous me direz, ah oui, la Chine, locomotive de la croissance mondiale depuis une vingtaine d'années, ne peut plus compter, elle, sur l'armée de réserve des travailleurs venus de la campagne. Une nouvelle décélération de la croissance est hautement prévisible, je cite, en raison des réalités démographiques chinoises. La croissance réelle devrait néanmoins atteindre entre 4,5 et 5,5 l'an durant les 10 prochaines années en Chine. L'empire du milieu bénéficiera des investissements massifs consentis dans des domaines stratégiques. Cela lui permettra de compenser cette absence d'un nouvel appoint de main-d'œuvre. Aux États-Unis, le potentiel de croissance ne dépasse pas 2% l'an. Depuis plusieurs années, ce pays utilise à fond toutes les recettes keynésiennes connues pour booster sa croissance. Quantitative easing, création monétaire à tout va, taux d'intérêt à zéro, déficit budgétaire massif. Et malgré une mobilisation impressionnante de la force de travail, puisque le taux de chômage actuel aux États-Unis est le plus bas constaté depuis un demi-siècle, eh bien la croissance américaine reste molle. Le principal sujet d'inquiétude, c'est la productivité, là aussi, qui ne progresse pratiquement plus. Et en fait, ça fait 15 ans qu'on constate ce phénomène et il a donné lieu à des controverses entre experts.
Ce qu'on appelle la stagnation séculaire.
Oui, c'est la théorie développée par Larry Summers et Herbert Gordon. Pour eux, la forte croissance de l'après-guerre en Occident était due à des facteurs conjoncturels qui donc ne se reproduiront pas. C'était l'entrée massive des femmes sur le marché du travail. L'élévation continue du niveau d'éducation, elle aurait atteint cette fois-ci un pic, paraît-il. Les ratios dette publique sur PIB, les dettes étaient tolérables et même bénéfiques lorsqu'elles provoquaient une croissance grâce à laquelle les États pouvaient les rembourser rapidement, et bien ce n'est plus le cas actuellement. Mais surtout, d'après Gordon, les fameuses révolutions technologiques dont on attendait de spectaculaires progrès de la productivité du travail n'ont pas tenu leurs promesses. Et on se souvient là de la fameuse boutade de Robert Solow, le prix Nobel d'économie 1987, qui disait « On voit partout qu'on est entré dans l'âge de l'ordinateur, sauf dans les statistiques ». Selon Robert Gordon, la plupart des grandes innovations récentes n'ont pas créé de nouvelles activités, ni boosté véritablement celles qui existaient déjà. Elles se sont contentées de déplacer le nœud d'activités déjà existantes. Exemple, le commerce en ligne, il n'a pas fait progresser le commerce global du tout. D'autres, vous me direz, comme Brynjolfsson ou McAfee, les auteurs de l'ouvrage « Le deuxième âge de la machine », estiment au contraire que les innovations récentes n'ont pas encore produit tous leurs effets, mais que l'avenir est prometteur. L'économie mondiale n'a pas encore connu le boom de la productivité, mais d'après les auteurs de cet ouvrage, eh bien celui-ci nous est toutefois promis. Reste à s'interroger, vous me direz, comme le font certains, sur l'intérêt d'une croissance soutenue de l'activité économique dans un contexte de réchauffement climatique. Faut-il prôner la décroissance ? Non, répondent deux fameux économistes, Joseph Stiglitz à gauche et Michael Boskin à droite. Si la croissance économique n'existe plus, écrit Stiglitz, plusieurs milliards de personnes demeureront privées d'une alimentation suffisante, d'un logement, de vêtements, d'une éducation et de soins médicaux. Il faut donc favoriser un développement vertueux visant, comme le font les Européens et eux seuls, la neutralité en carbone pour le demi-siècle. Boskin, lui, à droite, s'en tient au théorème de John Kennedy, qui disait, vous savez, « la marée montante soulève tous les bateaux ». Aujourd'hui, la croissance est encore trop faible, dit-il, pour améliorer le quotidien des pauvres des pays riches. Il en faut donc davantage. Mais Boskin estime que la réalité de la croissance économique est actuellement mal évaluée. Et il prend pour exemple le nombre de services proposés par l'économie numérique qui, parce qu'ils sont gratuits, ne sont pas suffisamment pris en compte. La croissance, dit-il, est plus soutenue qu'on ne le croit.
Merci beaucoup, Brice Couturier, pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. On vous retrouve demain.